chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série et nous arrivons à l'étude numéro 7. Et le titre sera « L'apôtre Paul et sa conception de sa propre vocation missionnaire ». Je répète, l'apôtre Paul et sa conception de sa propre vocation missionnaire. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de noter les indications bibliques que je vous donne, parce que c'est important. Si vous pouvez les noter, ce serait bien, parce que vous pourrez plus tard vérifier que c'est bien tout ce que vous avez noté, que vous pouvez le retrouver dans la Sainte Bible, à vous. Il est vrai que je prends parfois des textes, des citations, dans mes différentes versions allemandes. Mais n'ayez crainte, vous pouvez retrouver tout à fait la même chose dans vos Bibles françaises. Il ne devrait pas y avoir de problème. Chers amis, la nécessité absolue d'entendre l'Évangile pour pouvoir être sauvé, cela ressort sans ambiguïté des textes bibliques qui montrent la façon dont l'apôtre Paul concevait sa propre vocation missionnaire. Au moment de sa conversion, l'apôtre Paul a reçu du Seigneur un mandat. Il a vraiment reçu un mandat qui indique très clairement quel est le statut de tous ceux qui n'ont pas le Christ. Et il raconte cet épisode dans le livre des Actes. Et j'aimerais, si possible, que vous notiez les citations, par exemple Actes, chapitre 26, verset 15, jusqu'au verset 18. Il est dit, j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Actes chapitre 26, versets 15 à 18. Nous voyons là l'enjeu réel du ministère de l'apôtre Paul. Sans faire la moindre distinction, le Seigneur déclare, il déclare en effet, que ceux qui n'ont pas encore l'Évangile sont dans les ténèbres, sont donc soumis à la puissance de Satan et ils sont privés du pardon des péchés. Si le Christ a choisi d'envoyer l'apôtre Paul avec une parole puissante qui ouvre véritablement les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles, ce n'est pas pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont pardonnés, pas du tout, mais pour qu'ils puissent l'être pardonnés. Je répète, si le Christ Jésus a choisi d'envoyer l'apôtre Paul avec une parole puissante pour leur ouvrir véritablement les yeux de tous ceux qui sont spirituellement aveugles, ce n'est pas pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà pardonnés, ce n'est pas le cas du tout, mais pour qu'ils puissent être pardonnés. Donc, chers amis, la venue du Christ s'est accompagnée d'un message qui a le pouvoir de sauver. Notez s'il vous plaît Romains chapitre 1, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, pardon, et 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Tout cela, c'est pour porter du fruit. Colossiens chapitre 1, verset 6. Et d'être glorifié. Notez 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. Donc, la mission de l'apôtre Paul est de tous ses héritiers. C'est de prêcher ce message à toutes les nations. Puisque il a traversé cette sagesse, celle du monde. Donc, voyez-vous, la fausse religion, et je répète cela d'une manière plus juste, puisque à travers cette fameuse sagesse qui est celle du monde, donc cette sagesse qui est celle du monde, y compris les diverses fausses religions, eh bien le monde, il n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, car il a plu à Dieu de sauver des croyants à travers la folie de la prédication de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 21. Donc, voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs dans la synagogue, c'est là encore le salut qui est en jeu. L'apôtre Paul ne part pas du principe que les non-Juifs qui craignent Dieu, ou même les Juifs, seraient sauvés du fait simplement qu'ils connaissent certains textes de l'Ancien Testament. Non, non, non. Que déclare-t-il dans la synagogue d'Antioche, de Pisidie? Eh bien, il dit, selon Actes chapitre 13, versets 38 et 39, sachez-le donc, mes frères, j'ajoute mes sœurs, vous l'avez compris, c'est par lui, par Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui également que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérée par la loi de Moïse. J'ai dit Actes chapitre 13, versets 38 et 39. L'apôtre Paul leur dit même pas que les meilleurs d'entre eux, par exemple, il y en avait, qu'ils sont déjà pardonnés, tout simplement en vertu de leur merveilleuse obéissance à la loi, mais il leur offre le pardon uniquement par Jésus-Christ. Et il fait de la foi en Jésus-Christ, la liberté à l'égard du péché, ainsi que la justification, lorsque par la suite la synagogue s'oppose à ce message, eh bien l'apôtre Paul déclare, selon Actes chapitre 13, verset 46 jusqu'au verset 48, c'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons donc vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Oui, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les non-juifs se réjouissaient en entendant tout cela, et ils célébraient la sainte parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Tous crurent en Jésus-Christ et en son message. Actes chapitre 13, versets 46 à 48. Donc, la vocation de l'apôtre Paul, c'est d'apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'hypothèse de départ, c'est que le salut ne s'y trouve pas encore. Alors l'apôtre Paul est donc chargé de l'apporter jusque-là. Le message de l'apôtre Paul, c'est le moyen qui permet d'accéder au salut. Sans ce message, il n'y a point de salut. Car tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent le message de l'apôtre Paul et ils furent sauvés. Alléluia. Dieu a voulu donc que le salut parvienne aux nations par l'intermédiaire de messagers envoyés, de serviteurs et de servantes envoyés, dont l'obéissance et la prédication de l'Évangile puissent apporter le salut aux nations. Au travers de la prédication de l'apôtre Paul, Dieu accomplit désormais l'œuvre souveraine qu'il avait laissée de côté si longtemps pendant les temps d'ignorance. Il amène à la foi les non-juifs conformément au plan qu'il avait établi d'avance. Il ouvre ainsi leur cœur à l'Évangile, selon Actes chapitre 16, verset 14. Il leur accorde la repentance, selon Actes chapitre 11, verset 18, et purifiant leur cœur par la foi, selon Actes chapitre 15, verset 9. Avant l'avènement de cette époque privilégiée de l'Évangile, rien de cela n'était possible, car Dieu laissait les nations suivre leur propre voie, selon Actes chapitre 14, verset 16. Mais désormais, un grand mouvement est en marche afin de rassembler un peuple qui porte son nom, composé d'hommes et de femmes de toutes les nations, et Dieu intervient lui-même dans le ministère de ses messagers en vue de se constituer un peuple saint. Cela devient merveilleusement limpide maintenant, surtout en Romains chapitre 15, où l'apôtre Paul décrit sa vocation personnelle. Il la décrit dans son rapport avec l'œuvre du Christ en lui et par lui. Notez s'il vous plaît Romains chapitre 15, verset 15 jusqu'au verset 18. Il est dit « Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionné si Christ ne l'avait pas accompli par moi. Tout cela pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. Romains chapitre 15, versets 15 à 18. Notez bien que c'est Dieu qui prend l'initiative dans tous ces versets. Premièrement, Dieu a accordé à l'apôtre Paul la grâce d'être apôtre, et il l'a appelé au ministère de l'Évangile, versets 15 et 16. Deuxièmement, les non-juifs qui croient le message de l'apôtre Paul sont tous agréables à Dieu, car ils sont sanctifiés par le Saint-Esprit, verset 16. Troisièmement, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a amené les non-juifs à l'obéissance, mais c'est ce que Jésus-Christ a accompli, c'est ce qu'il a accompli à travers lui, selon le verset 18. Par conséquent, la mission auprès des non-juifs est la nouvelle œuvre de Dieu. Elle est l'accomplissement de la prophétie divine selon laquelle, jadis, autrefois, Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie. Mais maintenant, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple à son nom, selon Actes chapitre 15, versets 14 à 18. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, et j'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des humains recherchant le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, c'est ce que dit le Seigneur qui fait des choses connues depuis toujours. » Donc, la venue de Jésus-Christ a bel et bien ouvert une ère totalement nouvelle. Le peuple de Dieu est donc en train d'être relevé de telle sorte que plus jamais il ne faillira à sa mission d'annoncer l'Évangile aux nations. En cette ère nouvelle, Dieu n'acceptera pas que son peuple néglige la mission qui lui a été confiée. Il ne laissera plus les nations suivre leur propre voie comme autrefois. Il est donc en train d'établir une Église, afin que le reste des humains recherche le Seigneur. Et il va maintenant, rassembler tous ceux qui, au sein des nations, sont appelés par son nom. Voilà donc son programme pour cette nouvelle page de l'histoire. Oui, tous ceux qui sont prédestinés seront appelés, selon Romains chapitre 8, verset 30. Tous ceux donc qui sont destinés à la vie éternelle, ils ou elles croiront, selon Actes chapitre 13, verset 48. Et tous ceux qui sont rachetés seront rassemblés parmi tous les peuples qui vivent sous le ciel, selon Apocalypse chapitre 5, verset 9. C'est donc Dieu lui-même, qui est aux commandes de ce nouveau mouvement, et il se choisira ainsi parmi les nations un peuple qui porte son nom. Actes chapitre 15, verset 14. Chers amis, la conception de la nouvelle tâche missionnaire telle qu'elle est présentée dans les écrits de l'apôtre Jean rejoint donc à tout à fait, rejoint tout à fait tout ce que l'apôtre Paul dit et fait. En effet, de même que l'apôtre Paul écrit que nul ne peut croire en un Christ dont il n'a jamais entendu parler, Romains chapitre 10, verset 14. Alors Jésus déclare, en Saint Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis, ils écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Chapitre 10, verset 4 et 14. Autrement dit, Jésus rassemble le troupeau de ses rachetés en les appelant de sa propre voix. Les véritables brebis entendent donc sa voix et ils le suivent et il leur donne la vie éternelle. Jésus leur donne la vie éternelle. Chapitre 10, verset 28. À qui pense Jésus lorsqu'il parle de ceux qui entendront sa voix et le suivront? Il ne fait pas seulement référence aux Juifs qui l'ont réellement entendu ici-bas, mais il déclare en effet « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Saint Jean chapitre 10, verset 16. Donc, d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Cela fait référence aux non-juifs. Et oui, aux non-juifs qui ne font pas partie de l'enclos juif. Mais comment ces non-juifs entendront-ils sa voix? Eh bien, la réponse est la même que chez l'apôtre Paul. Ils sont censés entendre la voix de Jésus, non pas dans la nature ou par le biais d'une religion étrangère, même très sophistiquée, mais uniquement par la voix des messagers de Jésus-Christ. Cela ressort de la façon dont Jésus prie, oui, pour ses futurs disciples, selon Saint Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. » Cette phrase nous permet de déduire que les brebis qui ne sont pas de cet enclos entendront quand même la voix du berger à travers la voix de ses messagers. Je répète, j'ai dit Saint Jean chapitre 17, versets 20 à 21. Il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. » Cette phrase nous permet de déduire que les brebis qui ne sont pas de cet enclos entendront la voix du berger, et cela à travers la voix de ses messagers. Par conséquent, la vie éternelle est uniquement accessible à tous ceux qui entendent la voix du berger et qui le suivent. Mes brebis, est-il dit, écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Chapitre 10 de Saint Jean, versets 27 et 28. Cette écoute, se fait par l'intermédiaire des messagers du berger. C'est ce que veut dire Jésus lorsqu'il déclare en Saint Jean chapitre 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin. » Oui, uniquement Jésus-Christ est le chemin, le véritable, le seul chemin, et non pas certains qui se proclament être le chemin. Il est l'unique chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père, à Yahvé l'Éternel, à El Shaddai, qu'en passant par Jésus-Christ. Par moi, c'est-à-dire par Jésus-Christ, cela ne signifie nullement que les adeptes d'autres religions pourraient venir à Dieu du fait que Jésus est mort pour eux, et ce, bien que n'en sachant rien. Il convient donc de comprendre ce « par moi ». Par moi. Il faut comprendre cela dans le contexte de l'évangile selon saint Jean, c'est-à-dire comme étant le fait de croire en Jésus à travers le message annoncé par ses disciples. Saint Jean chapitre 6 verset 35, notez chapitre 7 verset 38, chapitre 11 verset 25, chapitre 12 verset 46 et chapitre 17 verset 20 chez dit de saint Jean. La vie éternelle n'est possible que grâce à la mort de Jésus pour ses brebis. Chapitre 10, verset 15. Une mort qui n'a pas racheté seulement quelques brebis juives, mais des brebis de toutes les nations. Cela ressort très clairement du passage où saint Jean interprète les paroles de Caïphe. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés. Chapitre 11, versets 51 et 52. Oui, les enfants de Dieu dispersés, chapitre 11, verset 52, sont précisément ces fameuses autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, chapitre 10, verset 16. Et quand on considère la façon dont saint Jean décrit l'aboutissement de la cause missionnaire dans l'Apocalypse, on voit bien que ces brebis et ces enfants sont effectivement issus de toutes les nations. Notez Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, où il est dit « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang précieux des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront tous sur la terre. » Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Nous voyons donc ici toute la portée du terme « dispersé » qui est utilisé en saint Jean chapitre 11, verset 52. Jésus est mort Jésus est mort afin de rassembler les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont dispersés parmi tous les hommes et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. En conséquence, il faut donc que Saint Marc, chapitre 13, verset 10, les messagers du berger proclament donc le message de l'Évangile et la bonne nouvelle. Elle sera, selon Saint Matthieu, chapitre 24, verset 14, elle sera proclamée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Les rachetés du ciel, qui sont issus de tous les peuples, ne sont pas rachetés sans le savoir, mais bien au contraire, exactement comme le dit clairement Die Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 7, verset 14, ces hommes et ces femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, selon Apocalypse, chapitre 7, verset 9, sont donc tous ceux qui ont lavé leur robe. Ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Et notez aussi Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Ce sont donc ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent évidemment le témoignage de Jésus, selon Apocalypse chapitre 12, verset 17. L'évangile du sang du Christ Jésus, crucifié pour les pécheurs que nous sommes, et ressuscité triomphalement, doit donc être prêché à toutes les nations, afin qu'elles puissent croire et qu'elles puissent être sauvées. Dans cette étude, nous nous sommes demandé s'il est possible que certains soient amenés à la vie par le Saint-Esprit et qu'ils pourraient être sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, en un autre Créateur miséricordieux. Même, s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus au cours de leur vie terrestre. Alors, y a-t-il parmi les adeptes de telle ou de telle religion autre que le christianisme, des gens qui s'en remettent humblement à la grâce d'un Dieu qu'ils connaissent uniquement au travers de la nature ou d'une expérience religieuse non chrétienne? Eh bien, la réponse du Nouveau Testament, ce n'est pas la mienne. La réponse du Nouveau Testament est absolument sans appel. C'est non, non, non. Au contraire, son message est de bout en bout que la venue de Jésus-Christ a engendré un changement décisif dans l'histoire de la rédemption. Jadis autrefois, la foi qui sauve était centrée sur la miséricorde de Dieu qui se manifestait par des actes de rédemption accomplis au milieu du peuple d'Israël, le système des sacrifices d'animaux et les prophéties concernant la rédemption à venir. À l'extérieur d'Israël, nous entendons donc parler d'un certain Melchisédek, selon la Genèse chapitre 14, qui lui connaît le vrai Dieu, en dehors de tout lien avec la révélation spéciale dans la lignée d'Abraham. Mais à présent, maintenant, la foi a été recentrée sur un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est à la fois l'accomplissement et la garantie de toute œuvre de rédemption de tous les sacrifices et de toutes les prophéties. C'est en son honneur que dorénavant, toute foi qui sauve doit être dirigée uniquement vers lui. Ce grand tournant dans l'histoire de la rédemption s'accompagne par conséquent d'un nouvel élan missionnaire voulu par Dieu. Dieu ne laisse plus les nations suivre simplement leur propre voie, Actes chapitre 14, verset 16, mais il envoie ses messagers et ses messagères partout dans le monde pour appeler tous les hommes à se repentir et à croire à l'Évangile. Actes chapitre 16, verset 3. Et je spécifie de croire pas seulement à l'Évangile, mais à Jésus-Christ, le donateur de l'Évangile. Donc, mes chers amis, l'Église, elle n'a donc pas d'autre option que de s'engager aux côtés du Seigneur au profit de sa cause. Charles Hodge a tout à fait raison lorsqu'il écrit que la question solennelle sous-entend par les termes employés par l'apôtre « Comment entendront-ils sans prédicateur ? » Cela devrait résonner jour et nuit dans les oreilles de toutes les églises de ce monde. Je répète, comment entendront-ils sans prédicateur ? Cela devrait donc résonner jour et nuit dans les oreilles des diverses églises de par le monde. C'est pour nous un privilège ineffable d'être engagés avec lui dans le plus grand mouvement de l'histoire, le rassemblement des élus de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs ait été moissonnée et que tout Israël ait été sauvé, et que le Fils de l'homme soit descendu dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et que la terre soit ainsi remplie de la connaissance de sa gloire, tout comme l'eau recouvre la terre au siècle des siècles. Alors là, la place centrale de Jésus-Christ sera manifestée pour tous les hommes et il délivrera le royaume pour Dieu le Père. Et Dieu sera donc tout en tous. Alléluia. Que les peuples te louent, ô Dieu. Oui, parmi les textes qui expriment l'espérance des nations, une troisième catégorie se fait par des prières qui sont remplies de confiance et qui appellent les nations à louer Dieu. Notez s'il vous plaît le psaume 67, versets 2 à 6. Eh bien là il est dit, je prends ma version allemande, mais vous retrouverez ça aussi chez vous, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges, que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse, car c'est avec justice que tu juges le monde et c'est avec droiture que tu juges les peuples. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. J'ai dit psaume 67, versets 2 à 6. Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Psaume 72, donc 72, verset 11. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on te bénira mutuellement. Oui, par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Psaume 72, verset 17. Mes chers amis, la catégorie de ces textes qui expriment l'espérance des nations annonce les intentions du psalmiste de prendre part à l'annonce de la grandeur de Dieu parmi toutes les nations. Notez le psaume 18, verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton saint nom. J'ai dit psaume 18, verset 50. Notez maintenant psaume 57, verset 10. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Oui, je te chanterai parmi les nations. Psaume 57, verset 10. Notez encore le psaume 108, verset 4. Je te louerai parmi les peuples éternels, et je te chanterai parmi toutes les nations. Psaume 108, verset 4. Ces textes montrent bel et bien que la bénédiction que Dieu avait accordée à Israël en matière de pardon et de salut était à terme destinée à toucher tous les peuples du monde jusqu'au fin fond des forêts vierges. Si Israël avait été béni, c'était bien d'être une bénédiction parmi les nations. Cette vérité est particulièrement bien exprimée au psaume 67, versets 1 et 2. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse qu'il fasse briller son visage sur nous. Et dans quel but? Eh bien, voici la réponse. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. La bénédiction accordée à Israël était un moyen d'atteindre les nations. Telle est donc l'espérance de l'Ancien Testament. Les bénédictions du salut sont donc pour les nations. Dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Jonas qui confirme et illustre de la façon la plus éclatante le dessein de Dieu concernant le salut des nations. Notre cher prophète Jonas avait reçu pour mission d'aller prêcher dans la ville païenne de Ninive. Mais il essaya de se dérober, sachant que Dieu se montrerait certainement miséricordieux envers ces gens-là et qu'il leur accorderait peut-être même le pardon. Ça lui plaisait pas trop. Le thème de ce livre n'est pas le gros poisson, non, mais plutôt la mission, et même on peut dire le racisme. Son message est le suivant: ne soyez pas mesquins comme Jonas, mais soyez miséricordieux comme l'Éternel. Ninive s'est repenti effectivement à la suite de la prédication que Jonas avait faite à contre-cœur. lorsque Dieu a vu la repentance des habitants de Ninive, eh bien, il regretta le mal dont il les avait menacés et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas exécuté. C'est écrit dans Jonas, le livre de Jonas, chapitre 3, verset 10. Or, c'est précisément que cet ami Jonas avait craint. Voyez-vous, Jonas l'a pris assez mal. Il a été irrité, ce pauvre Jonas. Il a prié l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais bien que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, ô Éternel, prends-moi donc la vie, car il me semble que mourir vaut mieux pour moi que de vivre. » Jonas chapitre 4, verset 1 à 3. Voyez-vous, Jonas n'est certainement pas le missionnaire absolument modèle. Je plaisante. Sa vie est même un peu un contre-exemple de la bonne attitude à avoir. Tandis que notre ami Jonas boude à l'extérieur de la ville, voilà que Dieu fait pousser une plante au-dessus de lui pour qu'elle lui donne de l'ombre. C'est magnifique cela. Et lorsque la plante sèche, eh bien Jonas se lamente, il se lamente sur la plante, peut-être plutôt sur lui. Alors Dieu interpelle Jonas par ces mots. Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser du tout, qui est née d'une seule nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, cette grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui sont absolument incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Jonas chapitre 4, versets 10 et 11. Ce que nous enseigne le livre de Jonas sur le plan missionnaire n'est pas seulement que Dieu est plus désireux que son peuple d'être miséricordieux envers les nations, mais aussi que Jésus, il se présente comme quelqu'un de plus important que Jonas. C'est Matthieu chapitre 12, verset 39 à 41. S'il est en effet plus important, c'est non seulement parce que sa résurrection est beaucoup plus extraordinaire que le fait d'avoir survécu dans le ventre d'un grand poisson, mais aussi parce qu'il est totalement en harmonie avec la miséricorde de Dieu qu'il s'étend désormais à toutes les nations. Cette miséricorde de Dieu, elle s'étend désormais à toutes les nations. Chers amis, écoutez s'il vous plaît cette poésie au sujet de notre ami Jonas. D'un air pincé, Jonas alla s'installer sur son siège ombragé, en attendant que Dieu finisse par adopter sa façon de penser. Quant à Dieu, il attend encore qu'une foule de Jonas, chez eux, bien installés derrière leur télé, finissent par adopter sa façon d'aimer. Chers amis, afin de constater quel impact avait cette espérance vétérotestamentaire sur la vision missionnaire à l'époque du Nouveau Testament, nous nous tournons à présent vers l'apôtre Paul et sa conception de la tâche missionnaire. L'espérance vétérotestamentaire constitue le fondement explicite de son ministère de missionnaire. Nous avons étudié la façon dont l'apôtre Paul faisait référence à la Genèse chapitre 12 verset 3 et Galates chapitre 3 verset 8, se basant sur la promesse selon laquelle que toutes les nations seraient bénies en Abraham, et il en déduisait que le Christ était la vraie descendance d'Abraham, et donc il était l'héritier des promesses, selon Galates chapitre 3, verset 16. Allons un peu plus loin, il expliquait que tous ceux qui sont unis au Christ par la foi deviennent eux aussi fils d'Abraham et héritent toutes ses promesses. Ce sont donc ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes donc la descendance de Abraham, et vous êtes donc ainsi héritier conformément à la promesse. Galates chapitre 3, versets 7 et 29. C'est donc ainsi que l'apôtre Paul voyait la façon dont la bénédiction d'Abraham s'étendait aux nations. La bénédiction arrivait par l'intermédiaire du Christ qui était la descendance d'Abraham. La foi permet donc aux hommes d'être unis au Christ et hériter ainsi la bénédiction d'Abraham. Christ Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Donc, par conséquent, la promesse de Genèse chapitre 12, verset 3 s'accomplit lorsque les missionnaires de l'Église chrétienne annoncent le message de l'Évangile à toutes les familles de la terre. Chers amis, comment Abraham allait-il être le père d'un grand nombre de nations? Mais l'apôtre Paul voyait un autre lien entre la promesse faite à Abraham et l'appel qu'il avait personnellement reçu d'aller annoncer l'Évangile aux nations. Il avait lu, dans la Genèse chapitre 17, versets 4 et 5, que Dieu avait promis de faire de Abraham le père d'un grand nombre de nations. Voici quelle est mon alliance avec toi, est-il dit. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre ou d'une multitude de nations. Nous avons vu précédemment que le mot nation désigne ici des peuples et non pas des individus non juifs. Mais comment cette promesse était-elle censée s'accomplir? Comment un juif pouvait-il devenir le père d'une multitude de nations? on ne peut se contenter de répondre que Abraham devint l'arrière-grand-père des 12 tribus d'Israël, ainsi que le père d'Ismaël et de ses descendants, et ainsi que le grand-père d'Ésaü et des Édomites. Même avec 14 enfants, on est encore très loin d'une multitude. Alors l'apôtre Paul répond ainsi, que tous ceux qui croient à Jésus-Christ deviennent enfants d'Abraham. Abraham devient ainsi le père d'une multitude de nations, puisqu'il se trouvera des croyants dans toutes les nations à mesure que les missionnaires atteindront tous les peuples qui n'ont pas encore été atteints. Voici donc le raisonnement que suit l'apôtre Paul en Romains, chapitre 4, verset 12. Il souligne que Abraham reçut la circoncision comme le signe de la justice qu'il avait obtenue par la foi avant d'être circoncis. Il est ainsi devenu le père de tous ceux qui croient, tout en étant incirconcis, pour que la justice leur soit comptée à eux aussi. Autrement dit, l'événement décisif qui arriva à Abraham dans sa relation avec Dieu se produisit avant qu'il ne reçoive le signe distinctif du peuple juif, c'est-à-dire la circoncision. Par conséquent, la véritable filiation spirituelle avec Abraham, elle consiste à partager uniquement sa foi et non pas seulement ses signes distinctifs juifs. Abraham devient donc le père d'un grand nombre de nations à mesure que celles-ci en viennent à partager sa foi et à être unies à la même source de bénédiction, celle qui découle donc de l'alliance que Dieu a conclue avec lui. Aussi l'apôtre Paul déclare-t-il, en Romains chapitre 4, versets 16 et 17, « C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, c'est-à-dire des Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire les nations non juives. En effet, Abraham, il est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi, père d'un très grand nombre de nations. » En disant que Abraham serait donc établi père d'un grand nombre de nations, l'apôtre Paul fait le lien avec le grand ordre de mission. Pour que ces nations deviennent des enfants adoptifs et qu'ils puissent recevoir en héritage la bénédiction d'Abraham, il fallait donc que des missionnaires puissent aller pour leur annoncer l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. Il n'est donc pas du tout étonnant que l'apôtre Paul a étayé sa propre vocation missionnaire par d'autres promesses de l'Ancien Testament qui avaient annoncé que la lumière et le salut de Dieu seraient annoncés aux nations, au pluriel. Il est dit, « Je t'établis, toi, Paul, pour être la lumière des nations. » Par exemple, en Actes chapitre 13, verset 47, l'apôtre Paul passe la justification de son ministère auprès des nations non juives sur la promesse d'Ésaïe 49, verset 6, selon laquelle Dieu ferait de son serviteur une lumière pour les nations. Alors que l'apôtre Paul prêchait à la synagogue d'Antioche de Pisidie, lors de son premier voyage missionnaire, les Juifs furent remplis de jalousie. Et de ce fait, ils se sont opposés à ce que disait l'apôtre Paul, en le contredisant et en l'insultant même. Actes chapitre 13, verset 45. Aussi Paul et Barnabas se retrouvèrent-ils donc dans la synagogue pour consacrer ainsi leur ministère aux membres d'autres peuples. Tout cela afin d'expliquer cette décision de l'apôtre Paul qui est citée en Ésaïe 49, verset 6. Il est dit, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devrait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 13, verset 46 à 47. Le mot hébreu utilisé en Ésaïe 49, verset 6, et goyim, qui signifie peuple au pluriel, et non pas simplement individu non juif. L'apôtre Paul procède donc exactement de la même manière que l'interprétation que nous avons estimée juste concernant Galates chapitre 3, verset 8. À partir d'un verset de l'Ancien Testament, faisant référence aux nations, il tire donc ainsi une conclusion logique à propos de non-juifs considérés individuellement. Et nous voyons ainsi que la vision que l'apôtre Paul avait de son ministère personnel s'inspirait de la méditation non seulement des promesses faites à Abraham, mais aussi de l'espérance vétérotestamentaire plus large, selon laquelle le salut serait annoncé à toutes les nations. Et ce point est confirmé de façon remarquable en Romains chapitre 15. À la lecture de ce chapitre, il ne fait plus aucun doute que l'apôtre Paul considère sa vocation missionnaire comme étant un appel à atteindre plus en plus de peuples et pas simplement de plus en plus d'individus non-juifs, mais surtout de plus en plus de peuples. Avez-vous bien compris? Donc l'apôtre Paul explique en Romains chapitre 15, versets 8 et 9, quel est le double objectif de la venue de Jésus-Christ. En effet, je vous l'affirme, le Christ est devenu le serviteur des Juifs, c'est-à-dire il s'est incarné en tant que Juif, pour accomplir les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres, et pour montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi d'eux afin que les non-juifs louent Dieu pour sa bonté. Le premier objectif de la venue de Jésus-Christ était donc de prouver la véracité de la fidélité de Dieu qui avait par exemple tenu les promesses qu'il avait faites à Abraham. Et le deuxième objectif est que les nations louent Dieu pour sa bonté. Ces deux objectifs se recoupent dans la mesure où il est clair qu'une promesse faite au patriarche était que la bénédiction d'Abraham puisse s'étendre à toutes les familles de la terre. Cela concorde parfaitement avec ce que nous avons constaté à propos de l'espérance vétérotestamentaire. Israël est donc béni afin que les nations puissent, eux, être bénis. Psaume 67. De la même manière, Jésus-Christ vient au milieu d'Israël. Pourquoi? Afin que les nations puissent recevoir la bonté de Dieu et de lui rendre gloire. Afin de corroborer cette affirmation concernant le dessein de Dieu pour les nations, eh bien l'apôtre Paul cite coup sur coup quatre passages de l'Ancien Testament où il est question des nations, chacun d'eux faisant bien référence dans son contexte vétérotestamentaire aux nations au pluriel et pas simplement aux individus non-juifs. Comme le dit l'Écriture sainte, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton saint nom. » Notez Romains chapitre 15, verset 9 et Psaume chapitre 18, verset 49. « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Romains 15, verset 10, et Deutéronome, chapitre 32, verset 43. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Romains, chapitre 15, verset 11, et Psaume 117, verset 1. Il paraîtra, oui, il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Romains 15, verset 12 et Ésaïe chapitre 11, verset 10. Chers amis, cette série de textes que l'apôtre Paul enchaîne ici est vraiment remarquable, car soit il les avait mémorisés, va savoir, soit il s'est donné la peine de les trouver dans l'Ancien Testament. Et croyez-moi, en ce temps-là, il n'existait pas de concordance. Dans un cas comme dans l'autre, cela montre bel et bien qu'il souhaitait et envisageait sa vocation missionnaire à la lumière de l'espérance vétérotestamentaire selon laquelle l'Évangile atteindrait toutes les nations. Dans le contexte de l'Ancien Testament, ces versets apparaissent donc clairement comme visant des groupes ethniques plutôt que des individus. Et nous voyons donc ainsi comment cette approche axée sur les groupes ethniques a précédé à la pratique missionnaire de l'apôtre Paul. Son objectif était-il de gagner à la fois le maximum d'individus non-juifs, ou bien est-ce que c'était pour atteindre le maximum de peuples et de nations? La suite nous apporte donc une réponse très surprenante. Notez s'il vous plaît Romains chapitre 15, versets 18 à 21. Mais malheureusement, nous n'avons plus le temps et je n'ai pas la possibilité sur ce CD de vous lire les textes. Alors, notez simplement les indications que je vous donne. Je vous donne encore Romains, chapitre 15, versets 18 à 21. Voici ce que l'apôtre Paul déclare littéralement. Depuis Jérusalem et jusqu'en Illyrie, j'ai pleinement accompli l'évangile. Qu'est-ce que cela veut bien signifier? Eh bien, nous savons qu'il restait encore des milliers d'âmes à sauver dans toutes ces régions, car cela apparaît comme étant le postulat aussi bien de l'apôtre Paul que de l'apôtre Pierre dans les lettres qu'ils ont écrites aux églises et à ces contrées. Il s'agit donc d'un territoire immense qui s'étend du sud de la Palestine jusqu'au nord de l'Italie. Et pourtant, l'apôtre Paul déclare qu'il a pleinement accompli l'évangile dans toute cette région, alors même que son ministère d'évangélisation n'a que 10 à 15 ans. Cher ami, je suis obligé d'écourter maintenant. Disons simplement que l'apôtre Paul était mu par une vision d'espérance absolument prophétique. Quelle était la motivation réelle de l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit en Romains 15, verset 20, que son but était de prêcher là où le Christ n'avait pas encore été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre? Le verset suivant, Romains 15, verset 21, montre ce qui motive l'apôtre Paul, c'est la conception vétérotestamentaire du dessein de Dieu pour l'humanité qui donne à l'apôtre Paul sa vision en tant que missionnaire pionnier. Il est mu par une vision d'espoir prophétique et il cite Ésaïe 52, verset 15, « Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront donc en ceux qui n'en avaient pas entendu parler et ils comprendront. » Je répète, ceux à qui il n'avait pas été annoncé l'évangile verront. Et ceux qui n'en avaient pas entendu parler, ils comprendront. Autrement dit, Paul était personnellement mandaté par le Seigneur, un mandat fort et riche d'une vision d'espoir prophétique. À l'origine de toute son action, il était totalement habité par le dessein de Dieu présent dans tout l'Ancien Testament. C'était de bénir toutes les nations, de la terre. Oui, Paul estimait donc que sa tâche spécifique missionnaire l'appelait donc à poursuivre bien au-delà des régions et des peuples au sein desquels le Christ avait déjà été prêché, afin de se rendre dans des contrées telles que l'Espagne et auprès de peuples à qui il n'avait pas été annoncé. la grâce missionnaire de Dieu à l'égard de l'apôtre Paul était qu'il soit un poseur de fondements dans le maximum de contrées et auprès du maximum de peuples. Et son objectif n'était pas d'atteindre le plus possible d'individus simplement non-juifs, mais le plus possible de peuples qui n'ont pas encore été atteints. Telle était donc la vision missionnaire spécifique de l'apôtre Paul. Conduire en son nom, au saint nom de Jésus-Christ, des hommes et des femmes partout à l'obéissance de la foi. Et ce sont de multiples serviteurs et servantes de Dieu, tels que D.G. Gentil, des Josiane et famille, des Francine et famille, et des milliers d'autres, même si ce n'est pas à l'extrémité du monde. Chers amis, l'apôtre Paul considérait, et nous terminons, que sa vocation missionnaire particulière, la grâce d'exercer le ministère d'apôtre, était un des moyens choisis par Dieu pour que s'accomplisse le commandement de conduire à l'obéissance de la foi. Des hommes et des femmes de toutes les nations. Et il a donné ainsi sa vie pour cela. Amen. Chers amis, nous n'avons plus le temps de dire beaucoup de choses. Sachez seulement que nous devons tous prier beaucoup. Prier pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont envoyés dans tous les peuples pour annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est notre devoir. À bientôt à nouveau, demain matin, pour la suite de cette série. Au revoir mes très chers amis, et merci pour votre écoute.